Le journal, présenté par Aurélie Kiefer.
Bonsoir. Les premières épreuves du nouveau bac perturbées dans une poignée de lycées. Les perturbateurs seront sanctionnés ou poursuivis, prévient le directeur général de l'enseignement scolaire. Nous l'entendrons. Le gouvernement accusé de vouloir camoufler les résultats des municipales de mars prochain. Christophe Castaner défend sa circulaire sur l'attribution des nuances politiques. Anne Fauquemberg nous expliquera les enjeux. En Virginie, aux États-Unis, les démocrates veulent restreindre l'accès aux armes à feu. Ils se heurtent à de fortes résistances et une manifestation pro-armes est organisée à Richmond. De reportage de Loïc Loury. Enfin, faut-il relancer l'opération navale Sophia pour contrôler l'embargo sur les armes à destination de la Libye ? Les Européens en discutent au lendemain de l'accord international pour relancer les efforts de paix dans le pays. Le nouveau bac un peu chahuté. Depuis plusieurs jours, des syndicats d'enseignants appelaient à des actions pour faire barrage à ce nouveau bac qui comprend des épreuves de contrôle continu comptant pour la note finale. Dans certains lycées, à Rennes, Bordeaux, Nancy notamment, les épreuves ont été annulées ou perturbées. À Montauban, les escaliers conduisant aux salles d'épreuves ont été envahis par une centaine de lycéens et de profs. Le reportage de Stéphane Iglesis.
Les deux épreuves de langue prévues ce matin ont donc été annulées. Depuis 7h, il y avait un barrage filtrant devant le lycée. Puis à 8h30, profs et lycéens se sont engagés dans les escaliers, rendant difficile le maintien des épreuves. Arthur, élève de première, ne se sent pas prêt.
Le programme a été donné trop tard. Il y a eu les profs qui ont été beaucoup absents. Même en histoire géo, on a révisé 2 ou 3 chapitres, mais ce qui n'est pas assez parce que du coup, on va tomber sur un sujet qui ne va peut-être pas être le bon. On a emmené la mine un peu.
Emmanuel Loubet est professeur d'histoire géo. Il confirme l'improvisation de ce contrôle pour sa discipline.
Par exemple, quand on a des épreuves extrêmement nouvelles, comme la question problématisée, on ne peut pas le faire. Je parle pour l'histoire géo, vous voyez. Par contre, mon métier, je le connais depuis 25 ans et je vous dis qu'on ne peut pas préparer des élèves méthodologiquement en 3 mois. Ce n'est pas possible. Sauf peut-être avec d'excellents élèves. Et encore, ils n'auront pas le temps de composer en moins d'une heure.
Quant au report, selon Tom et Chloé, c'était difficile de faire autrement.
Ah non, on a attendu devant la salle, la porte n'était même pas ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prof à l'intérieur, ni de correcteur, ni rien du tout.
Il y a la CPE donc, qui est arrivée et qui nous a dit que l'épreuve n'était pas annulée mais reportée.
Reste à savoir si les épreuves d'histoire, géographie et de maths prévues jusqu'à mercredi pourront se dérouler normalement.
Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire relativise, il souligne que très peu d'établissements sont perturbés, mais les annulations ou reports sont dus à des comportements inadmissibles, selon lui. Le numéro 2 du ministère prévient qu'il y aura des sanctions pour les perturbateurs. Édouard Geffray.
Il y a 2 types de situations différentes. Vous avez des personnes, des professeurs qui ont décidé de faire grève ponctuellement, par exemple des surveillances. Et donc là, ce ne sont pas des sanctions, ce sont des retenues sur salaire, à raison d'un 1/30 par jour de grève. En revanche, là où il y a des comportements fautifs, c'est-à-dire des perturbations physiques, etc., là, effectivement, on est sur des comportements qui entraîneront des sanctions et ou des poursuites pénales, notamment contre des personnes qui n'ont rien à voir avec l'éducation nationale.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent se mêler à ce mouvement, selon vous, qui ne sont pas de l'éducation nationale.
Quand on regarde un certain nombre d'établissements, on voit bien que il y a effectivement un certain nombre de personnes qui ont fait des actions devant les entrées de lycée et qui ne sont pas du ministère. Et je relève d'ailleurs que l'immense majorité des professeurs ont évidemment fait passer les épreuves ce matin, là où ils étaient mobilisés.
Le directeur général de l'enseignement scolaire, Édouard Geffray, au micro d'Hakim Kasmi. Pas de vœux aux agents ni au monde de la culture de la part de Franck Riester. Le ministre a annulé le rendez-vous vendredi dernier, considérant que les conditions n'étaient pas réunies pour que leur présentation se déroule sereinement. De nombreux syndicats ont malgré tout maintenu leurs propres vœux et c'est au même endroit, à la Bibliothèque nationale de France, qu'ils se sont retrouvés cet après-midi. Comme on a encore pu le voir récemment au Louvre ou à l'Opéra de Paris, ils protestent contre le projet de réforme des retraites, mais aussi contre des réformes dans un service public de la culture qui devient, selon eux, de plus en plus éclaté et marchand. Frédéric Maguet, conservateur du patrimoine, anthropologue et secrétaire général du SNAC FSU.
Il y a des éléments qui sont décidés à l'intérieur du ministère lui-même et puis il y a des éléments qui sont décidés en interministériel. Quand on voit un certain nombre de missions qui jusque-là étaient du ressort du ministère de la Culture, de ses services centraux ou de ses services extérieurs et qui maintenant vont être beaucoup plus sous la responsabilité des préfets, on peut être un petit peu inquiet quand on voit par exemple que tout ce qui concerne les musées de France, le label Musée de France, maintenant c'est transféré aux préfets, que les projets scientifiques et culturels des musées, c'est plus le ministère qui a la dernière main dessus, mais c'est les préfets. C'est-à-dire que la culture est quelque chose considéré comme un élément d'aménagement du territoire au niveau local qui peut être négocié. Bon, on se demande si Castaner va pas devenir le directeur du musée de France. Donc ça pose quelques petits problèmes en termes de politique culturelle, en termes de démocratie culturelle. Tout ça, c'est des choses qui, mis bout à bout depuis la RGPP, font qu'on a le sentiment que le service public de la culture est de plus en plus impacté par des réformes qui ont pour but d'aller vers une marchandisation, vers quelque chose, vers une culture spectacle, au détriment du service public culturel, d'un bien commun. Ça s'est vu avec des épisodes assez emblématiques, Carlos Ghosn à Versailles, etc., etc. Mais bon, ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres.
Frédéric Maguet, joint par Éric Chavroux, et en une de franceculture.fr, vous pourrez lire un article sur la privatisation de la culture. À la veille de l'ouverture du sommet de Davos, Emmanuel Macron reçoit à Versailles les grands patrons du monde entier. Au sommet Choose France, il veut inciter les grands capitaines d'industrie de l'automobile, de la pharmacie, de l'agroalimentaire, du numérique à investir en France. Et ce matin, en déplacement à Dunkerque, sur le site d'une usine pharmaceutique, le chef de l'État a déjà vanté l'attractivité de la France et surtout les réformes qui ont, selon lui, permis de créer plus de 500 000 emplois depuis son élection.
Les bonnes nouvelles, elles n'arrivent pas toutes seules. Elles arrivent parce que on fait des réformes, notre pays se bouge, il mobilise, il convainc les grands patrons du monde entier, il fait des réformes sur le plan de la fiscalité, sur le plan du travail, sur le plan de l'organisation des territoires pour attirer à nouveau ces investissements. Bilan des courses, les résultats sont là. Ces deux dernières années et demie, on a créé un peu plus de 500 000 emplois à nouveau. Surtout, depuis maintenant 8 mois, on recrée des emplois dans l'industrie. Je le dis dans une terre qui a été ô combien bousculée par la désindustrialisation. Et l'industrie, c'est la culture des Hauts-de-France et en particulier de ce bassin d'emploi. Pendant 12 années, on avait détruit de l'emploi industriel. Depuis 8 mois, on en recrée. Je veux bien qu'on nous farcisse la tête de mauvaises nouvelles. On a l'impression que tout exploserait. C'est pas vrai quand je regarde les chiffres du pays. Et on le recrée parce qu'on s'est tous mobilisés. Et donc, on réinvestit en France depuis 2 ans, massivement. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus attractif en termes d'investissement productif, quels que soient les secteurs. On recrée des emplois dans tous les secteurs et dans l'industrie.
Emmanuel Macron, à quoi ressemblera la photographie du scrutin municipal de mars prochain? Et surtout, les filtres seront-ils suffisamment précis? Une question extrêmement sensible depuis l'envoi au préfet d'une circulaire relative à l'attribution des nuances politiques aux candidats qui se présentent les 15 et 22 mars prochains. Le nuançage, c'est cette pratique qui autorise les préfets à donner une couleur politique aux candidats qui ont déposé une liste, même sans étiquette, pratique discrétionnaire, mais qui permet de former l'image du scrutin après le vote, de faire par exemple des cartographies électorales. Alors qu'aux dernières municipales, les communes de plus de 1000 habitants étaient classés en nuance, le seuil a été augmenté à 9000 habitants. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Avec ce seuil, 96% des communes et 50% de la population seront exclus de la photographie des municipales, donc toute l'opposition s'insurge. Et dans l'Ain, 2 élus, les Républicains, ont même déposé un recours devant le Conseil d'État. Mais ce matin, Anne, le ministre de l'Intérieur a de nouveau défendu ce choix.
Oui, en déplacement à Rennes, Christophe Castaner a dit vouloir mettre fin à une pratique discrétionnaire qui touchait les petites communes, un nuançage arbitraire qui a toujours été contesté et qu'il a fait le choix donc d'écouter les élus locaux plutôt que les appareils politiques. Car il est vrai que ce sont les élus ruraux qui ont demandé de ne plus être touchés par ces pratiques de nuançage. Les élus ruraux, on le sait, qui se vivent en dehors des partis sans étiquette. Jusque-là, tout va bien. Ce qui est moins compréhensible, c'est le seuil choisi par le gouvernement. Les élus avaient demandé de sortir du nuançage les communes de moins de 3500 habitants. Ils n'avaient pas demandé un seuil à 9000 qui exclut donc la plupart des communes et qui fait dire à l'opposition qu'il y a là une manipulation.
Alors justement, 2 élus locaux, les Républicains du département de l'Ain, sont à l'origine d'un recours en référé suspension qui sera examiné vendredi par le Conseil d'État.
Oui, ils parlent de déni de démocratie. Ces élus estimant que cette circulaire porte atteinte au droit à l'information des citoyens, à la sincérité du scrutin et à l'objectivité des résultats en tant que tels. Les Républicains qui craignent aussi de devenir invisibles, car au-delà du seuil dont on vient de parler, parmi les 24 nuances déterminées dans cette circulaire, il y en a une qui s'appelle « divers-centres » et qui leur fait très peur. Un seul soutien de l'AREM permettrait d'y être classé, explique Henri de Beauregard, l'avocat de ces 2 élus locaux LR.
Donc on crée un bloc-centre, premièrement, qui est censé correspondre à une majorité présidentielle, c'est comme ça que c'est indiqué dans la circulaire, et on permet à toutes les formations de ce bloc-centre de transformer à leur gré, en quelque sorte, n'importe quelle liste en une liste divers-centres par le seul effet de leur soutien. C'est-à-dire que dans une commune où ces formations-là n'ont pas eux-mêmes monté une liste, dans une commune où elles n'ont pas investi une liste, eh bien, il va suffire en quelque sorte qu'ils disent « oui, mais on soutient telle liste », et cette liste va devenir divers centres et ne sera plus une liste soit d'union de la droite, si au départ elle était menée par quelqu'un de droite, soit d'union de la gauche, si elle était menée par quelqu'un de gauche. En gros, le centre et ces partis-là peuvent s'approprier, une fois encore, toutes les listes qui leur chantent, sur leur droite ou sur leur gauche, par la seule grâce de leur soutien.
Un cas pratique Toulouse, Jean-Luc Moudin, tête de liste LR, avec au moins 5 candidats en marche, mais aussi des personnalités UDI, Agir, proche de la majorité. Difficile de dire ce soir s'il sera classé dans la case Union de la droite avec LR ou en divers centres avec donc l'AREM.
Anne Fauquemberg. Le procès d'une ancienne figure du recrutement de djihadistes s'est ouvert devant la Cour spéciale d'assises de Paris. Mourad Fares, 35 ans, comparaît notamment pour association de malfaiteurs terroristes criminels, financement du terrorisme et direction d'un groupe terroriste. Son nom est apparu dans plusieurs dossiers de filières d'acheminement de jeunes djihadistes vers la Syrie et la Cour a commencé par se pencher sur la personnalité de l'accusé.
À quel moment vous êtes-vous radicalisé ? La présidente pose la question sans détour et la réponse de Mourad Fares se résume en un nom, Omar Diaby. Omar Diaby, le djihadiste niçois, toujours activement recherché par les services antiterroristes, recruteur influent à l'origine de très nombreux départs en Syrie. Premier contact via un compte Facebook. « J'étais en quête de spiritualité après la mort de mon cousin », explique Mourad Fares, voix calme et posée, polo gris, cheveux courts et petites lunettes. À ce moment-là, je regardais beaucoup de vidéos pour approfondir mes connaissances religieuses. Omar Diaby en publiait des dizaines qui véhiculaient des thèses complotistes sur la mort de Ben Laden. Il cherchait des gens pour faire des voix off, il avait posté une petite annonce et j'ai répondu, poursuit l'accusé. Il était assez exigeant sur la qualité, précise-t-il encore, les premiers sons ne lui plaisaient pas. Les premiers contacts mail se doublent d'une rencontre à Nice, j'ai commencé à entrer sous son emprise fin 2012. Très vite, il le considère comme son mentor, un homme qu'il rejoindra en Syrie et dont il nie avoir été le bras droit malgré les éléments versés au dossier. J'ai été tombé dans ses griffes et je me rends compte de ce que j'ai reproduit à mon tour, déclare l'accusé. Profil bas face à la cour et position de repenti depuis son incarcération. En prison, il a repris des études, obtenu une licence de mathématiques, mention très bien. Aimerait travailler dans l'enseignement tout en ayant conscience des difficultés à venir. Vous pensez avoir des dons de pédagogie, intervient la présidente, parce que ce que l'on vous reproche dans ce dossier, c'est aussi la transmission.
Florence Turme à la Cour d'assises spéciale de Paris. Didier Decoin succède à Bernard Pivot. Le romancier devient président de l'Académie Goncourt à 74 ans. Il a lui-même été lauréat du prix Goncourt en 1977 pour John L'Enfer. Et le vœu formulé par ce nouveau président, il faut que tout cela marche bien, qu'on s'aime, qu'on travaille ensemble, qu'on ait la même ambition. Aux États-Unis, la ville de Richmond a été placée sous très haute surveillance. La capitale de Virginie accueille en ce moment un très grand rassemblement pro-armes à feu. Les autorités ont décrété l'état d'urgence et le rassemblement qui promettait d'attirer suprémacistes et autres miliciens anti-gouvernement est fortement encadré. 2 ans et demi après les violences de Charlottesville, à une centaine de kilomètres de là, les démocrates qui sont arrivés au pouvoir en novembre en Virginie veulent renforcer le contrôle des armes, mais des milliers de militants sont bien décidés à défendre le second amendement. En reportage de Loïc Loury.
Les armes sauvent des vies. Cet autocollant orne la poitrine de la plupart des manifestants. Julian, notamment, vient du Mississippi. Il fait la queue dans le froid pour rejoindre le Capitole et défendre son droit à porter une arme.
Je crois dans le second amendement. Je crois que porter une arme, c'est la fondation de toute république libre.
Pas de guerre civile en vue. Pour autant, rassure-t-il, face à la crainte de débordement, tout va bien se passer.
Les gens armés ne sont pas violents. Les manifestants ici ne sont pas violents. Je crois qu'ils sont détendus et tout va se passer sans accroc.
De l'autre côté de la barrière, Robert, qui se dit milicien, sans plus de précision, reste lui à l'extérieur. Il ne compte pas lâcher le fusil d'assaut qu'il porte en bandoulière.
Juste pour ma protection. Je veux dire, si quelque chose arrive à l'intérieur, vous êtes piégé. Pas moyen de s'échapper. Mais ce n'est pas politique. Nous sommes ici pour défendre la Constitution.
Les supporters de Donald Trump pourtant ne sont pas loin, comme Jean, qui promet qu'il y a bien des démocrates aujourd'hui à Richmond.
C'est très bipartisan. La Virginie compte des démocrates et des républicains. Et la plupart comprennent comprennent l'importance du second amendement. Regardez le Venezuela. Tous ces autres pays, on leur a pris leurs armes, et maintenant ce sont des pays socialistes, et les gens souffrent beaucoup.
Mais sa démonstration devrait plutôt parler aux détenteurs d'armes qui, en 2016, ont voté en bonne majorité pour l'actuel président.
Loïc Lory, à Richmond, en Virginie. La conférence internationale pour mettre fin à la guerre en Libye s'est terminée hier soir à Berlin et l'Allemagne se réjouit d'avoir accueilli les représentants de 11 pays impliqués directement ou indirectement dans le conflit libyen. Mais le cessez-le-feu reste précaire et l'avenir du pays plus qu'incertain. Les Libyens que vous avez pu joindre, Maureen Mercier, sont désabusés.
Ils n'en attendent strictement rien. Cette conférence internationale n'est pas la première. Les précédentes n'ont rien donné. Les Libyens s'en souviennent. Pour les plus optimistes, tout cela c'est du cinéma. Pour les plus pessimistes, à savoir pour la majorité des Libyens, Berlin c'est une énième démonstration du cynisme des grandes puissances. C'est ce qu'estime cette jeune femme à Tripoli.
This war might continue.
Je pense que cette guerre va continuer pendant au moins une année ou deux. C'est ce que veulent la Russie, la Turquie, les Émirats. C'est aussi ce que veut la France. Mais ce n'est pas ce que nous, on veut. Nous ne voulions pas de cette guerre. Ce que je dirais à ces pays, c'est « Est-ce que vous faites cela pour l'argent, le pétrole, pour notre gaz ? Alors pourquoi ne vous asseyez-vous pas autour d'une table pour l'obtenir légalement, plutôt qu'en déclenchant une guerre et en tuant des gens ?» C'est vraiment très triste. C'est la première fois que j'en pleure, tellement tout cela est triste.
L'internationalisation du conflit transforme l'angoisse des Libyens souvent en désespoir. Les mercenaires étrangers qui arrivent de plus en plus des deux côtés laissent penser aux Libyens que le pire est à venir. Il y a un fossé absolument gigantesque entre la réalité du terrain et la diplomatie. Cette nuit, sur les différents fronts à Tripoli, et selon plusieurs habitants, les bruits d'artillerie ont d'ailleurs largement retenti.
Et malgré la conférence de Berlin, pas de résultats tangibles sur la relance de la surveillance maritime en Méditerranée. Les Nations Unies demandent d'une part la surveillance du cessez-le-feu en Libye et d'autre part la mise en œuvre de l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Les ministres de la Défense de l'Union européenne qui se retrouvaient à Bruxelles aujourd'hui ont donc lancé le travail de préparation pour honorer cette double demande. Mais donc pour l'instant, Pierre Benazet, c'est vraiment simplement le stade du travail préparatoire.
Les Européens estiment d'une part qu'ils ne pourront agir pour surveiller que les armes se sont bien tues en Libye que lorsque la fragile trêve actuelle se sera effectivement transformée en cessez-le-feu. Ils ne savent pas encore s'ils enverront des observateurs civils dans le cadre d'une hypothétique mission de l'ONU ou bien une mission civilo-militaire sous bannière européenne qui pourrait même avoir une composante terrestre. Il faut construire sur les résultats de la conférence de Berlin, clame-t-on ici, tout en estimant que ces résultats restent fragiles. D'autre part, les Européens ne sont pas non plus très avancés sur les contours de la mission Sophia. Cette mission militaire européenne a engrangé des résultats tangibles dans la surveillance de l'embargo sur les armes, mais elle ne dispose plus de navires depuis 10 mois et les Européens ne sont pas parvenus ce lundi à reconstituer une escadre qui pourrait reprendre le travail. Les opérations navales avaient cessé du fait du désaccord constant sur le lieu de débarquement des migrants recueillis en mer par les navires de l'opération Sophia. Certains estiment que la tenue d'élections régionales très sensibles en Émilie-Romagne le 26 janvier empêche le gouvernement italien de donner son feu vert à la relance direct de l'opération. Le mandat des Nations Unies est toujours valable, mais l'UE doit remodeler la structure de Sofia pour la remettre à l'eau, et le résultat tangible des discussions entamées ce lundi pourrait ne pas être sur la table avant le 17 février, date de la prochaine rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
Au Royaume-Uni, le directeur général de la BBC, Tony Hall, a annoncé sa démission. La BBC est confrontée au défi du financement et du rajeunissement de son audience, mais elle a aussi été critiquée par la droite comme par la gauche pour son traitement de la campagne des élections législatives du mois dernier. Et le Premier ministre Boris Johnson est très remonté contre le géant public des médias britanniques, Antoine Gignot.
Oui, on peut même parler de colère de l'ensemble du gouvernement. Depuis plus d'un mois, plus aucun ministre ne participe à la matinale radio de BBC 4. Les conservateurs ne perdent pas une occasion de dire que le ton du service public est biaisé, trop ouvertement anti-Brexit, trop opposé au gouvernement. La brouille remonte au mois de décembre, lorsque Boris Johnson a refusé de participer à une émission politique. Andrew Neil, le présentateur phare de la BBC, s'est publiquement moqué de lui avec cette phrase. En tant que que Premier ministre, Boris Johnson va devoir faire face au président Trump, à Poutine et au président chinois. Me rencontrer, moi, ça ne devrait pas être si compliqué. Plusieurs affaires d'écart entre hommes et femmes au niveau de la rémunération ont aussi contribué à ternir l'image du groupe et des députés conservateurs évoquent désormais la possibilité de baisser le montant de la redevance. Un coup dur de plus pour l'audiovisuel public qui va déjà cette année se voir privé d'une partie de ses recettes. Les plus de 75 ans seront à partir du mois de juin dispensés de redevances. Ça représente au total 3 700 000 personnes, un cinquième du budget de la BBC. Je pars en mettant les intérêts de l'organisation au premier plan, explique Tony Hall. Le directeur général explique qu'il faut continuer à défendre la créativité, une manière de mettre en avant les réformes faites ces dernières années, notamment dans le numérique.
Antoine Gignot, en direct de Londres pour France Culture. La journée de demain sera plutôt ensoleillée sur l'Hexagone, mais il y aura de fortes précipitations sur les Pyrénées-Orientales, placées en vigilance orange, neige, verglas. Au lever du jour, il fera de moins 4 à 7 degrés. Les maximales atteindront 5 à 8 degrés sur la moitié nord, 9 à 15 sur le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.